Sinon, ben évidemment que le Parti libéral, ça continue de faire jaser. Il y avait entre autres Pablo Rodriguez hier du côté de Tout le monde en parle. Puis à mon bien humble avis, il n'a pas été bien meilleur que ses deux points de presse de la semaine passée. Ou entre autres, vendredi, après son premier point de presse plutôt catastrophique, c'était mardi ou mercredi, vendredi, où avec les journalistes, il avait l'air d'un gars désespéré, a fini en disant « Vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autres questions, là? » Le gars suivait pas pendant toute la game. Bref, il y a Marois Risky qui est sorti quelques dizaines de minutes hier avant Tout le monde en parle. Marois Risky qui a brisé le silence en disant que tout au long de son parcours politique, elle ne s'est jamais défilée. A toujours voulu répondre à toutes les questions avec honnêteté, intégrité et transparence, mais que dans ce cas-ci, ben, c'est parce qu'elle peut pas. Elle rappelle que le dossier qui la concerne en est un de ressources humaines, que les lois ne permettent pas à un employeur de commenter publiquement le dossier d'un employé sur la place publique. Elle rappelle aussi que c'est pas elle la source de la médiatisation de la décision. Elle veut affirmer que tout au long du processus de prise de décision, ben, elle a été étroitement accompagnée par les ressources humaines de l'Assemblée nationale du Québec, qu'elle a préservé la confidentialité en tout temps, puis qu'aucun de ses collègues a été informé au préalable, et que c'est la preuve qu'elle ne poursuivait pas quelconque visée politique. Et ce qu'elle écrit, c'est que le chef du PLQ, Pablo Rodriguez, a le privilège de choisir la manière dont il répond et se gouverne dans le cadre de ce dossier ou face à tout autre enjeu dans les médias. Je souligne d'ailleurs que si lui et le nouveau chef de l'opposition officielle, M. André Fortin, jugent que la décision que j'ai prise n'est pas la bonne, ils ont tout le loisir de réembaucher l'ex-directrice de cabinet.
On reconnaît là une femme extrêmement intelligente qui tend un piège à son ancien parti. On a le plaisir d'en jaser avec Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur politique, directeur principal aux affaires publiques chez National. Salut Marc-André.
Bonjour, bon lundi.
Quelle histoire, l'histoire du Parti libéral du Québec. Marois Risky qui a décidé, elle, que c'est qu'elle ne parlait pas. Pablo Rodriguez qui parle trop. on ne sait pas trop comment l'histoire va finir, mais est-ce que c'est la première fois de ton vivant, là, toi, depuis que tu suis la politique, que tu vois une affaire comme ça, aussi mal organisée, avec un chef de parti qui, on croyait que c'était un politicien d'expérience, mais en communication, on dirait qu'il en manque beaucoup, ou il n'écoute pas son équipe. Il aurait dû se contenter d'une belle feuille 8 par 11, dire ce qu'il avait à dire en disant « je ne peux pas vous en dire plus parce que nos avocats sont dans le dossier puis je ne veux pas nuire aux enquêtes non plus ». Là, il s'en va, tout le monde en parle, ça sort tout croche. Les deux conférences de presse, ça sortait tout croche aussi. Ouais. Il paraît très mal, Pablo Rodriguez.
Oui, il paraît très mal. Et le premier problème là, avec Mme Risky, c'est que M. Rodriguez n'aurait pas dû choisir Mme Hinze au détriment de Mme Risky. Et je m'explique. C'est que cette histoire-là, là, pour Mme Hinze, là, ça aurait dû durer le temps d'une chronique ou deux, 5 minutes à la joute, ça se termine là, là. Je veux dire, Mme Risky prend une décision, elle tasse Mme Hinze, elle dit pas à Pablo. Mais ça, là, on s'en fout un peu. Ça, M. Rodriguez, il aurait dû ravaler, il aurait dû dire à Marois, écoute Marois, ça ne fonctionne pas comme ça, tu peux pas prendre de décision comme ça, je vais laisser passer celle-là. Madame Hinze, on va y trouver notre job ailleurs dans le parti. Dossier réglé. T'as pas Monsieur Rodriguez, il a pris une mauvaise décision à la base. Ici, aujourd'hui, pour Madame Hinze, tout ça est médiatisé, puis les mises en demeure, puis là, il y a une poursuite qui a été lancée vendredi. C'est parce que Monsieur Rodriguez, à la base, je trouve qu'il a mal, il a mal géré ça. Il a voulu mettre son pied à terre en disant « ça va être moi le chef ». Mais ne pas penser, c'est rare en politique que les élus choisissent un employé politique au détriment d'un élu. J'ai été employé politique pendant 10 ans de ma vie, je sais c'est quoi, j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là, c'est des heures de fou, t'es dans l'ombre, t'as pas beaucoup de reconnaissance, mais à la fin, ça ne fonctionnait pas entre les deux femmes et... je pense que M. Rodriguez a fait une erreur en choisissant Mme Hinze au détriment de Mme Risky.
Puis, au-delà de cette erreur-là, bon, Mme Hinze décide de poursuivre Marois Risky, ça va peut-être être un danger parce qu'à partir du moment où tout ça se ramasse en cours, ben nécessairement, on va avoir accès à l'information qui va être dite dans ces dossiers de cours-là. Par la suite, on décide de s'attaquer aux membres des médias en demandant encore une fois quelque chose de totalement débile, là, c'est-à-dire, on demande aux journalistes de révéler leurs sources. Marc-André, on s'en va en Cour suprême avec ça. Là. C'est, ouais, ouais. Le Parti libéral, c'est un mauvais calcul.
Oui, ben, en fait, dans une gestion de crise, là, ce que tu veux, c'est d'arrêter la crise le plus possible et de ne pas l'alimenter. Tu ne mets pas une bûche dans le poêle de plus à chaque jour. Là, un, en faisant en congédiant Mme Risky comme chef parlementaire, chef de l'opposition officielle, ça a vraiment fait en sorte de garder tout ça dans l'actualité. Par la suite, de permettre à Mme Haynes de faire une mise en demeure, après ça, de faire une poursuite, on garde l'histoire vivante. Là. Et c'est ça le problème. Quand tu veux, quand tu es en gestion de crise, c'est que tu veux, c'est colmater la fuite et t'assurer par la suite qu'il n'y a pas d'autres conséquences, là, que vraiment que tout est fermé. Là, on garde l'histoire en vie. Parce que hier, c'est quoi? Là, hier, c'est la réaction de Mme Risky à 45 minutes avant que M. Rodriguez soit « Tout le monde en parle ». Là, je vais dire une chose sur « Tout le monde en parle ». M. Rodriguez, là, il ne peut plus dire qu'il ne sait pas pourquoi les deux femmes, ça ne fonctionnait pas.
Non, c'est n'importe quoi.
S'il dit ça, là, c'est qu'il n'a pas lu la poursuite. Moi, je l'ai lu, la poursuite, vendredi. Les 9 pages, puis tu comprends. Il y a des dates, il y a des moments, il y a des... tu lis tout A, B, C, D. Tu comprends le nœud y est où. Après ça, les versions, c'est la version de Mme Haynes, la version de Mme Risky et tout ça. Mais tu sais pourquoi le problème, c'est l'enveloppe budgétaire. Et à savoir, est-ce qu'on consulte la commissaire ou pas, et est-ce qu'on se fait des lignes directrices au sein du cabinet de la chef de l'opposition officielle, mais de M. Rodriguez de nous dire qu'il ne sait pas pourquoi, puis là, personne n'y a dit.
Mais il parle de la crédibilité.
Un, il paraît très faible.
Déjà qu'on ne le connaissait pas nécessairement au Québec, il semble pas avoir l'étoffe d'un premier ministre. Là. Il a de l'air assez smooth. Il fait confiance aux gens autour de lui, mais il n'a pas toutes les réponses. Il se présente quand même dans les conférences de presse. C'est une catastrophe, son départ.
Ben, moi, ce qui m'a fait sourire, Yannick, c'est que dans les différents articles du week-end, je pense que c'est dans la presse, M. Rodriguez nous dit que lundi, là, quand tout ça a pété lundi passé, une semaine, là, il était dans 2-3 comtés, puis après, il a fait des courses. Il faisait ses emplettes.
Oui.
Pendant qu'il perdait sa chef de cabinet, que Mme Risky prenait une décision sans lui parler. Fait que c'est sûr, pour la personne là, qui suit la politique, 3 minutes et quart par jour ou par semaine, il a vu peut-être M. Rodriguez être élu le 14 juin. Après ça, on est parti faire des barbecues, puis on est parti sur le bord de la piscine. On revient. On n'entend pas vraiment parler de lui, même s'il y a eu 150 occasions pour lui de faire des entrevues, ça clique, tout ça, les médecins. On le voit pas. Première chose qu'on voit, cette histoire-là, il paraît mal.
Oui, bien c'est ça, Marc-André. En voulant assumer son leadership et en disant à Marois Risky, ça marche pas comme ça, c'est moi le chef, il s'est complètement il a complètement perdu de sa crédibilité, là.
Oui, totalement, c'est ça. C'est que là, il a voulu mettre son pied à terre. Puis je peux le comprendre, là. Pourquoi tu veux mettre ton pied à terre, c'est que tu dis, ben c'est moi le chef, puis tu me feras plus ça. Cependant...
Tu le fais en coulisses, tu le fais pas comme ça à l'avant-plan contre une politicienne aimée et respectée comme Marois Risky.
Tu fermes la porte du bureau, t'assois Mme Risky, tu dis, garde, je comprends ce que tu as fait avec Geneviève, là, mais c'est la première et la dernière fois. On regardait ça entre nous, ça va, je suis pas content, Geneviève, c'est une bonne personne, on va y retrouver d'autres choses, ça marchait pas, vous deux, on va l'envoyer au parti, organiser une campagne, peu importe. On va faire en sorte qu'elle puisse tourner la page, Mme Haynes, là-dessus. Entre nous, là, c'est la première et la dernière fois que tu prends une décision comme cela sans en parler. Tu fermes la porte, tu t'en vas.
Quand est-ce que ça va finir, cette crise-là? Est-ce que ça va continuer encore cette semaine ou là, on va avoir une accalmie pendant tu as le temps de voir qu'est-ce qui va se passer avec la poursuite, le temps de voir qu'est-ce qui va se passer avec les mises en demeure puis la demande d'avoir accès aux sources des journalistes qui ont mis ça, qui ont rendu ça public?
Ben, c'est sûr que cette semaine, là, ça va être au cœur de l'action.
Encore? Ah oui.
Ben oui, ça s'est pas semaine passée. Fait que tout le monde revient aujourd'hui pour que ça siège demain à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Fait que cette semaine, on va être encore là-dedans. Parce que là, c'est sûr qu'on va. Est-ce que Mme Risky va être là? Qu'est-ce qui arrive avec le conjoint de Mme Risky, M. Kelly, qui est également député, là? Lui, il peut pas non plus ne pas se pointer. Là. Il n'y a aucune raison de. Est-tu derrière son chef ou derrière sa femme? Ça aussi, c'est une question qu'il va falloir lui poser. Fait que cette semaine, c'est sûr que ça va être au cœur. Il va-tu avoir d'autres rebondissements? Comment les gens? Parce qu'il y a un groupe là, de militants.
Il y a un journaliste qui va pogner M. en disant « Vous êtes dans quel clan? Celui c'est de ça. La mère de vos enfants ou celui de votre chef? »
C'est ça. Quand M. Rodriguez dit « J'ai tout le caucus derrière moi, pas trop sûr. »
Mais en tout cas, je souhaite de donner la bonne réponse à M. Kelly.
C'est quoi la bonne réponse?
Ben là, c'est sa femme.
Dépend s'il veut coucher sur le divan, là.
Ben non, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui coûte le... Pas sûr qu'il veut un divorce.
Ouais, là, parce qu'on avait, on avait déjà une crise au Parti libéral du Québec. Est-ce qu'on avait besoin d'une crise à Québec solidaire avec Vincent Marissal qui tentait encore une fois et une autre fois de se négocier un autre poste de travail?
Bon, est-ce qu'on avait besoin d'une crise? Probablement pas. Je peux te dire que samedi, ça l'a occupé mon samedi, clairement. Je n'étais pas supposé d'être à la télé samedi. Ça l'a rempli ma journée de congé. Est-ce qu'on avait besoin d'une crise? Probablement pas. Est-ce qu'elle est surprenante, cette crise-là? Non plus. Elle n'est pas vraiment surprenante. Je comprends que beaucoup de gens trouvent que M. Marissal est un peu magasineux. Là. Il magasine en 2018, c'est PLC versus QS. Après ça, il y a eu
la mairie de Montréal.
Mais quand on écoute le constat de M. Marissal, là, c'est le même constat que Gabriel Nadeau-Dubois. C'est pas un constat qui est différent. Je peux comprendre le malaise de M. Marissal par rapport à la position de QS sur la STM, le conflit. On a vraiment choisi dans le conflit de la STM de prioriser le mouvement syndical au détriment de la population. Et ceux et celles, là, ceux qui fréquentent le plus là, le transport en commun à Montréal sont dans les circonscriptions de QS, là. Dont celle de M. Marissal. Donc, je peux comprendre son constat.
Est-ce que les intentions de vote, ça a peut-être pu faire en sorte qu'il demande une job à PSPP? Ben, parce qu'actuellement, dans Rosemont, là, ce ne sera plus QS. Là. S'il y avait des élections demain matin, ce serait le Parti québécois qui passe.
Non, mais je veux dire, QS ont fait 1,5% dans Arthabasca.
1,5. Sont morts. Marc-André QS sont devenus des militants de gauche progressistes, puis il n'y aura pas vraiment d'élus à la prochaine élection.
Ils sont pas morts, mais ils sont pas forts. C'est comme ça je dirais ça. Parce que tant qu'un parti politique est toujours là, tu peux toujours renaître de tes cendres. Le PQ est un bel exemple. Mais les militants solidaires sont contents, eux, sont fiers de ça. Hier, je recevais des messages de gens qui ont œuvré au sein du parti, mais eux sont contents de dire « Nous, là, on ne change pas. On pense à une affaire, le mur est bleu, il n'est pas bleu pâle, puis on est fiers de ça. » Fait que si vous n'êtes pas contents, allez-vous-en. On est mieux à être moins, mais à être ceux qui sont là. Ça joue pour eux là-dedans, de cette volonté. Ils ne sont pas dans l'introspection. Là. Quand on écoute M. Zanetti, et Mme Gazal, le samedi après-midi, ne sont vraiment pas dans l'introspection. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans le point de presse de M. Marissal, c'est la déclaration d'amour pour PSPP. Là. Hey, c'était la Saint-Valentin avant le temps. Il était en amour et on se connaît, on a fait de la télé, on est voisins de pupitre, puis je partageais, puis quand mes collègues le dénigraient, moi, j'étais là pour le défendre. Puis, M. Marissal défendait mieux PSPP que les propres députés du PQ actuellement. C'était assez surprenant.
Paul Saint-Pierre-Plamondon, vas-tu se faire rattraper? Parce qu'il y a de ça quelques jours, il disait que les gens qui voulaient délaisser leur parti pour des transfuges, ben, ils n'en voulaient pas dans son parti. Là, il n'a pas fermé la porte à Vincent Marissal. Puis j'ai l'impression que le livre est déjà écrit. Là. On va le laisser terminer son mandat de 4 ans. Puis aux prochaines élections, on l'intégrerait au Parti québécois.
Oui, ben moi, ce que j'ai vu dans la déclaration de M. Saint-Pierre-Plamondon, c'est une espèce de « on prend notre temps ». M. Saint-Pierre-Plamondon va aller chercher les commentaires, parce que tout le monde, depuis ce temps-là, doit lui dire en privé « on le prend pas ». Mais c'est sûr qu'on sent le certain malaise chez les transfuges. Mais la meilleure citation, puis je vais vous la lire, là, elle est la suivante, là, puis vous me direz qui a écrit ça dans le passé. Là. Rares sont les transfuges qui réussissent à survivre à leur propre test électoral. Les électeurs les prennent souvent pour ce qu'ils sont, des opportunistes.
J'étais un de ceux, on n'était pas beaucoup, là, mais j'étais un de ceux qui lisait les chroniques de Vincent Marissal dans le temps.
Ouais. C'était le Vincent Marissal, ouais. 2 points pour Yannick, dans le 10 février 2015, dans la presse. Ouais. C'était en lien avec le départ de Yves Adams des conservateurs fédéraux vers les libéraux. de Justin Trudeau à ce moment-là. Fait que c'est sûr que là, ça fait beaucoup. Là. On est au fédéral, le député d'Entremont. Là, il y a Mme Poulet au provincial qui avait courtisé les libéraux. Ça commence à faire beaucoup de gens là, qui se remettent en question. Mais c'est comme si à l'Assemblée nationale, les plaques tectoniques là, sont en train de bouger. Puis c'est encore drôle de dire qui seront les forces en présence, puis qui vraiment va être sur la ligne de départ pour la campagne en 2026.
Ça nous permet de voir qui sont les opportunistes et qui sont les gens qui ont des vraies valeurs.
Oui, mais tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut... Est-ce que ça se peut qu'un un député, à un certain moment, n'est plus à l'aise avec sa formation politique?
Bien, si tu adhères au programme de Québec solidaire, j'imagine que tu dois te reconnaître un peu dans le programme. Oui, effectivement, ouais. Il y a une frange plus radicale chez Québec solidaire. Puis Gabriel Nadeau-Dubois l'avait mentionné. Gabriel Nadeau-Dubois voulait ramener ce parti-là peut-être pour un parti un peu plus au centre qui pourrait un jour peut-être gouverner le Québec. Et il n'était pas aimé en raison du fait qu'il voulait l'amener peut-être un peu plus à droite. Mais ouais. Ces gens-là sont tellement rendus dans l'extrême-gauche que tout ce qui est un petit peu à gauche d'eux, qui s'en va vers le centre, c'est quasiment la droite radicale pour eux autres dans leur tête. Ouais. Ils vont mourir avec ça. Puis je comprends qu'il y a certains individus chez Québec solidaire qui disent « ben nous, on change pas d'idée tout ça. Ouais, » Mais si ça. Un jour tu veux gouverner, il faut que tu l'améliores ton programme pour que ce soit accessible à monsieur et madame tout le monde.
Ouais, mais c'est ça Yannick, je pense qu'il y a beaucoup de gens à QS, ils s'en foutent de gouverner.
Ils veulent juste avoir leur parti de gauche,
avoir raison. Tu sais, Vincent Marissal, il l'a dit en point de presse. Dans une discussion qu'il y a avec Gabriel Nadeau-Dubois, il dit avant d'être un parti de gouvernement, parce que c'est ça que GND voulait faire, un parti de gouvernement. Il dit avant de faire un parti de gouvernement, on devrait être un parti gouvernable.
Exact.
Mais c'est peut-être, je vais appeler ça entre guillemets, de la naïveté de penser que tu vas rentrer dans un parti politique puis tu vas le changer. C'est sûr que si tu commences en couple avec ta blonde ou ton chum, puis tu dis hey, « moi, là, je t'aime bien, mais tu sais, il faut que tu changes », ben peut-être prends tes tics, puis tes claques, puis va-t'en de tout de suite, là, parce que la personne ne changera pas. Là.
On voit que t'es un homme d'expérience. tu t'attends à quoi demain pour la mise à jour économique?
Ça va être... je parlais avec des... Mais là, ce qui est le fun, c'est que quand tu parles avec les gens de la CAQ, là, ils ont le sourire. Là, ils sont de bonne humeur. C'est la première fois de l'automne.
Ben, il y a deux crises ailleurs. Puis là, il devrait donner un petit bonbon. Là. Moi, j'ai prédit un petit bonbon sur l'essence.
L'essence?
Ben, le pouvoir d'achat. Quand je parlais aux gens à la CAQ, on m'a dit le pouvoir d'achat. On va augmenter le pouvoir d'achat. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On va le savoir demain. Très pouvoir d'achat, PME, économie. Les gens à qui j'ai parlé, ils étaient très... dans ce sens-là, tu dis, ben, on montait pas trop les attentes, là. Mais tu sais, très positif. Ils ont dit, on a une bonne mise à jour économique. Je pense qu'on peut s'attendre également à avoir des déficits plus bas que prévu. On avait déjà une bonne idée dans les dernières mises à jour là, qu'on a mensuelles ou trimestrielles. Donc, les déficits vont être moins pires que prévu.
Parce que, est-ce que tu as entendu parler de l'abolition de la possible taxe carbone? Parce que j'ai l'impression qu'ils vont se garder ça peut-être 3 mois avant les élections pour être sûr et certain que les gens s'en souviennent. Ouais, il me semble que ce serait trop vite pour demain. Là.
Mais tu sais, je veux dire, quand tu veux donner un coup, tu es aussi bien à le donner tout de suite. Ça serait pas. Je vois pas l'abolition. Hein. Je pense qu'ils essaient de voir, c'est comment, sans l'abolir, comment ils peuvent nous redonner l'argent.
Duranceau avait mentionné ça, qu'elle regardait comment elle pouvait faire pour piger là-dedans pour redonner ça aux Québécois, puis on avait exclu ça très rapidement.
Oui. Mais ça, cette méthode-là, là, c'est la même Moses de méthode que Justin Trudeau en 2019 avec la taxe carbone.
Exact.
Une méthode qui n'a pas fonctionné. Là. Moi, je suis pas en amour avec la taxe carbone, là, comprenez-moi bien. Là, ce matin, là, je trouve que les gens en payent déjà assez au Québec, puis ça n'a pas de bon sens qu'ailleurs on l'a enlevé, puis au Québec on l'a encore. Mais la façon de le faire, si c'est celle-là, c'est la même façon que Justin Trudeau en 2019, puis ça n'a pas fonctionné. Là. Fait que je ne sais pas pourquoi on irait faire la même chose. Là.
OK, donc on va rester attentif demain à la mise à jour de M. Girard. Un gros merci, Marc-André.
Merci, bonne semaine.
Bye bye. Salut, bonne semaine.
Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur politique, directeur principal aux affaires publiques chez National. Toujours très pertinent. Match du Canadien, c'est quand le prochain match?
Ben là, on a un petit break parce qu'on s'en va dans un voyage qui risque d'être assez éreintant. Ça va s'amorcer en Utah mercredi.
Contre la Mammoth.
Après ça, ce sera les Golden Knights vendredi et l'Avalanche samedi.
Puis là, les heures sont assez particulières. Contre le Mammoth, c'est 21h30?
Ouais, vendredi, Thanksgiving américain, ce qui fait qu'on a du hockey à partir de midi tout au long de la journée. Puis le Canadien qui va affronter les Golden Knights à 16h. Et Canadien nordique. Samedi 15h, parce que l'Avalanche enfilera l'uniforme des Nordiques. Ça va être assez spécial.
Ça, faut que je vois ce match-là.
Ben oui, go Nordique, go!
Ça va me rappeler des souvenirs.
Ah oui, tellement des bons souvenirs.
All right, hey, on va se faire un petit bloc foot là, tout de suite après la pause. Merci d'être là, les amis. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021, c'est par messagerie de texte.
J'ai une mauvaise nouvelle de début de semaine, un lundi matin. Accident, pont Pierre-Laporte, direction nord. C'est à peu près la pire affaire qui puisse arriver sur un lundi matin. Fait que on espère qu'il n'y ait rien de trop grave. Là, ça a vraiment l'air d'être en plein milieu du pont. Fait que les deux ponts, ben c'est le bordel présentement.
Marceau le matin.
Marceau le matin.